BFM Radio.
h 30 sur BFM TV, c'est l'affaire qui a bouleversé tout le pays, la mort de la petite Liana. Autour de ça, beaucoup de colère et d'incompréhension, le sentiment qu'elle n'a pas été protégée alors qu'elle aurait dû, alors qu'elle aurait pu, face au principal suspect, Jérôme Barella, déjà mis en cause dans des affaires de viol et agression sexuelle sur mineurs. Mais derrière les polémiques, il y a surtout une affaire qui suit son cours et elle a commencé par une disparition avant de se transformer en meurtre une semaine plus tard. Entre-temps, que s'est-il passé? Comment Liana a-t-elle été tuée? Dans quelles circonstances? L'autopsie de son corps commence à révéler de nouveaux éléments que nous raconte Pierre-Louis Bousset.
C'est avec du scotch que la jeune Liana a été bâillonnée. C'est ce qu'affirment de premiers éléments de l'autopsie réalisée sur le corps de la fillette de 11 ans. Les expertises ont également permis de mettre en évidence des traces d'ecchymose, notamment sur la tempe gauche. Des avancées médico-légales notables, mais les causes de la mort de la petite Liana ne sont pour l'heure toujours pas connues.
Pour l'affirmer, ils ont besoin de l'ensemble des examens complémentaires. On regarde au microscope les tissus. Il peut rester un mystère. Si les lésions ne sont pas suffisamment parlantes, on peut avoir des doutes, mais ne pas arriver à le prouver.
On sait également désormais que Liana a été victime d'un viol. Un profil biologique a été retrouvé sur les parties intimes de la jeune fille. Il s'agit de celui de Jérôme Barella. Un élément particulièrement accablant pour le principal suspect de cette affaire. D'autres analyses sont en cours sur le véhicule lui appartenant, celui dans lequel est montée Liana le jour de la disparition.
Les enquêteurs de l'IRCGN essayent de faire parler ce véhicule, notamment d'éventuelles données géographiques, pas forcément GPS, vu l'ancienneté du modèle, mais voilà, des données qui permettraient de retracer un petit peu son parcours.
Devant la juge d'instruction, Jérôme Barella a refusé de répondre aux questions, exerçant son droit au silence. Mais il devrait bientôt être confronté à ces nouveaux éléments lors d'une prochaine audition. Actuellement mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineurs de 15 ans, il pourrait bientôt l'être pour meurtre et viol.
Alors pour comprendre ce qui s'est passé entre la disparition et la découverte du corps de la petite Liana, en plateau, général Jacques Fonbonne, bonjour. Merci d'être avec nous, ancien commandant de la section de recherche d'Orléans, consultant BFM TV. Samuel Lepastier est également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Psychiatre et directeur de recherche au Centre d'études de psychopathologie et psychanalyse, pour nous aider aussi à comprendre le profil du principal suspect. Gilles Rex est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Ancien major à la police technique et scientifique de la police judiciaire de Paris et auteur de Parmi les morts aux éditions Mareuil. L'autopsie du corps de la petite fille révèle évidemment des éléments très importants, peut-être parmi les premiers que les enquêteurs cherchaient à avoir.
Oui, bien sûr, cette autopsie révèle en fait le contact établi entre l'auteur et la victime, en fait, hein, par ces prélèvements ADN. Mais elle ne révèle pas encore les causes exactes de la mort, en fait. Hein. Il y a plusieurs éléments qui pourraient orienter ces causes, là, mais visiblement, il faut pratiquer l'anatomopathologie de manière à pouvoir aller voir dans les cellules des viscères, des choses qui ont été prélevées lors de l'autopsie. Et ce sont des cultures biologiques qui prennent du temps, plusieurs semaines. Hein. C'est pour ça qu'on n'y connaît pas encore.
Qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans ces prélèvements?
Alors, c'est difficile à dire, hein, parce qu'il y a différentes causes.
Qu'est-ce qu'on cherche dans ces prélèvements?
Eh bien, on cherche, au sein des cellules, on cherche le fait de savoir si, par exemple, l'oxygène a pu faire défaut, c'est-à-dire pour savoir si
elle est morte étouffée.
Si elle est morte étouffée, asphyxiée. Et mais il y a quand même différentes causes qui peuvent tuer une personne, hein, par exemple une enfant comme ça, une position prolongée, une pression prolongée sur la cage thoracique, et voilà quoi, on peut éviter quelqu'un de respirer, ou une clé de cou sans briser l'os hyoïde, qui est caractéristique dans le cas d'étranglement naturel. avec une clé de coude comme ça, on peut tuer quelqu'un aussi, hein, si vous voulez. Ou alors, elle peut même être morte d'effet du stress, de la peur. Hein, c'est déjà arrivé. Moi, lors d'autopsie, j'ai déjà assisté à des autopsies où les médecins légistes nous disaient non, ces personnes-là sont mortes de peur. Hein, donc,
on peut mourir de peur.
Oui, on peut mourir de peur.
Il y a deux éléments, à mon avis, qui peuvent être intéressants. Le premier, comme le disait Monsieur Reck, Major Reck, c'est la toxicologie. Ça veut dire que dans les tissus, on va peut-être retrouver une substance. En fait, il a endormi la petite pour qu'elle ne crie pas. Il y a un deuxième élément, à mon avis, qui est plus un élément d'enquête.
Malgré la semaine qui s'est écoulée.
Oui, malgré la semaine qui s'est écoulée. Il y a un deuxième élément qui peut être intéressant, mais c'est plus un élément d'enquêteur qu'un élément de police technique, c'est le scotch. Le scotch, évidemment, tout a été prélevé. Je pense qu'il y a une utilisation du scotch. Est-ce que le rouleau était neuf? Est-ce que il a l'habitude d'avoir ça dans sa voiture? Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait une préméditation, parce que le scotch aurait été acheté spécialement pour enlever la petite, pour l'empêcher de crier, ou au moins au moment de l'homicide, au moment du meurtre, qui deviendrait à ce moment-là un assassinat avec un changement de qualification pénale, un élément, c'est un détail, mais c'est un détail qui pourrait être très intéressant dans l'enquête pour la qualification des faits.
Et s'il a été attaché et bâillonné avec acte de torture et de barbarie?
C'est ça. Et puis également, avec quoi? Avec quel lien? Ce qui déterminerait effectivement que ça n'est pas quelque chose qui s'est passé parce que pour une rencontre fortuite.
Ça veut dire que là, Gilles, il y a deux mondes qui se rencontrent. Vous, la police technique et scientifique. Vous, la police judiciaire. L'un servant l'autre.
Et l'autre servant l'un. Absolument.
Et l'autre servant l'un. C'est-à-dire que lui, cet homme-là, refuse de parler. Vous, vous allez apporter un dossier police scientifique à des enquêteurs PJ. Qu'est-ce que vous leur écrivez? Qu'est-ce que vous leur racontez pour eux, que eux sachent? Est-ce qu'il y a un contact déjà entre vous, PTS, PJ? Est-ce que vous leur dites, voilà, nous, il y a ça qui est intéressant. Là-dessus, vous pouvez peut-être le coincer, lui faire dire que c'est comme ça ou pas?
Oui, bien sûr. Avec les enquêteurs, comme disait le général Jacques Fonbonne, il y a un dialogue permanent. Un dialogue permanent. La police technique et scientifique est au service de l'enquête. Ce sont eux, les directeurs d'enquête, qui mènent ça. Et tous les scellés qui sont faits sont envoyés dans les laboratoires. Et par exemple, ces scotchs vont être aussi analysés. Et sur des scotchs, on peut trouver quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a un côté brillant, il y a un côté collant. Et sur ces côtés collants peuvent rester accrochés des cellules de la peau, où là, on peut retrouver de l'ADN. Sur le côté brillant, on peut faire apparaître des traces papillaires aussi, hein, avec des traces papillaires, avec des cuves, des sorbonnes, où on utilise la technique du cyanoacrylate. Hein.
Des quoi? Des sorbonnes?
Oui, sorbonnes. Ce qu'on appelle des sorbonnes, c'est un... C'est comme un aquarium, si vous voulez, ou une armoire dans laquelle on humidifie.
Je sais pas que ça s'appelait des sorbonnes.
On humidifie les objets qu'on met à l'intérieur. On humidifie l'intérieur. Après, on fait chauffer de la colle cyanoacrylate sur des petites coupelles métalliques. Cette colle cyanoacrylate, vous savez, celle qui colle instantanément les doigts, qu'on trouve, la cyanolite, là. Et la fumée va se dégager et se déposer sur les objets en matière plastique ou les scotch, bien. Et faire apparaître en blanc les traces papillaires.
Pour l'anecdote, l'assassin du juge Michel, qui avait été tué par les trafiquants, avait été identifié parce qu'on avait trouvé sur sa moto, la moto qui avait servi au meurtre, un autocollant qui était sur le réservoir. En enlevant l'autocollant, on a découvert l'empreinte de celui qui avait... C'était coller les doigts avant de... Et donc, on a eu un nom
grâce à ça. Sans laisser les empreintes digitales dessus. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire, PJ? Qu'est-ce que vous allez faire des infos de la PTS?
Alors, les infos de la PTS, ils vont permettre de qualifier l'infraction. Ouais. Et ils vont permettre, je dirais, de trouver la chronologie des faits et d'apporter la preuve. On trouve de l'ADN. OK, on trouve de l'ADN. L'enlèvement est matérialisé. Donc, si l'on trouve de l'ADN de contact sur l'épaule ou à un endroit, je dirais, où la petite fille a pu être touchée sans qu'il y ait une infraction pénale, et c'est là qu'il y a le lien entre la police technique et l'enquête. En revanche, sans donner de détails, si on retrouve l'ADN de l'auteur sur un endroit qui caractérise des violences, des actes de torture et un viol, à ce moment-là, on va caractériser l'infraction.
Et on peut le faire avouer. On peut espérer
le
faire avouer.
Alors, il faudrait qu'il avoue. Il faudrait qu'il avoue parce que, on parle justement, la question est particulièrement pertinente, on parle d'éléments techniques. Mais il y a toujours, l'élément technique, c'est la question du comment. Comment ça s'est passé? La question à laquelle répond l'aveu et qui est fondamentale, c'est la question du pourquoi. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, et je dirais que les parents de la victime, nous, la société, a besoin de comprendre ce pourquoi. La seule chose qui pourrait peut-être le faire parler, sauf qu'il réagit pas forcément avec, je dirais, avec un état d'esprit de gens particulièrement structurés, c'est l'image qu'il va vouloir donner de lui-même. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un, sa femme, ses enfants, vis-à-vis desquels il n'aura pas envie de passer pour le monstre que les faits pénaux décrivent. C'est ça l'intérêt de l'aveu.
Justement, puisque vous parlez du pourquoi, c'est ce qu'on cherche à déterminer, on va faire le point avec Sabina Iklazova. Que sait-on, Sabina, de l'emploi du temps qu'a pu avoir Jérôme Barella le jour de la disparition de Liana?
Oui, alors nous sommes le vendredi 29 mai, il est 15h lorsque Liana sort de son collège à Fleurance. 5 minutes plus tard, donc à 15h05, elle est aperçue par un témoin dans la voiture de Jérôme Barella, ce qu'on confirmeront par ailleurs les images de vidéosurveillance. Et entre le moment où elle est vue dans la voiture, donc entre 15h05 et 16h45, Jérôme Barella dit l'avoir déposée près de la piscine à la base de loisirs de Fleurance, à peine 1 kilomètre du collège. À 16h45, après avoir prétendument déposé Liana, il dit être allé à 17h chercher sa propre fille au collège. À 18h30, on sait que Jérôme Barella va à la fête de l'école de sa fille. Et entre 18h45 et 19h, les parents de Liana signalent la disparition de leur fille à la gendarmerie. Ce n'est donc que le 4 juin que le corps de Liana est retrouvé à une quinzaine de kilomètres de Fleurance. Il y a donc là un moment de flou dans cette chronologie, car entre 15h05, moment où Liana est vue dans la voiture de Jérôme Barella, et 16h45, heure à laquelle il dit l'avoir déposée à la piscine, qui par ailleurs était fermée, on ne sait pas ce qu'il s'est passé.
Merci beaucoup Sabina pour ces informations. On sait quand la petite a disparu, vraisemblablement enlevée, on ne sait pas en revanche quand elle est décédée.
Non, alors il y a un élément qui peut être intéressant si elle est décédée tout de suite après l'enlèvement. C'est quelque chose qu'on rencontre évidemment en médecine légale, c'est le bol alimentaire. Elle a déjeuné à midi, peut-être chez ses parents, peut-être à la cantine, donc on saura très exactement ce qu'elle a mangé. Ensuite, sans donner de détails sordides, c'est une question de temps de digestion. Si la digestion est finie, ou si elle a à peine commencé, ou si elle est en cours, ça va permettre effectivement de dater. Le délabrement du corps, c'est une petite fille, donc la masse musculaire est assez faible. Il a fait chaud, puis des changements de température. Ça risque d'être plus compliqué, sauf à ce qu'il y ait eu des prélèvements, et certainement d'entomologie légale, hein, vous savez, c'est-à-dire les insectes qui vont permettre de dater, parce qu'ils arrivent sur les corps au fur et à mesure de cette décomposition.
Docteur Samuel Lepastier, Jacques dit, Jacques Fonbonne dit mobile, lui il a besoin d'un mobile, ce genre de personnage. Est-ce que ça a besoin d'un mobile? S'il y en a un, c'est lequel? Et ensuite, est-ce que ça avoue facilement?
Alors, mobile, je ne sais pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est un projet mûri depuis un certain temps, puisque les parents de Liana ont rompu avec Jérôme Barella après une pyjama partie. Donc dès ce moment-là, il y avait un comportement sans doute inapproprié. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'il va avouer facilement? Pour avouer, il faut avoir un sentiment de culpabilité. Or, l'opprobre, effectivement, des pédocriminels, c'est qu'ils sont des personnes clivées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de sentiment de culpabilité, ils ne comprennent pas ce qu'on leur reproche. Une personne que j'avais vue me disait, pour la cour d'assises, je dois paraître coupable, mais je n'y arrive pas. Donc ils ne comprennent pas vraiment qu'on leur reproche, ils pensent l'accident, que c'est comme ça, et que ça a été plus fort qu'eux. Et en même temps, ils peuvent se présenter comme des victimes. Et en même temps, il y a quand même une très grande conscience de la situation, puisque la meilleure défense, c'est de ne rien dire. Dès qu'on parle, on peut se tromper, on peut être mis en cause, on peut être confronté, mais si quelqu'un ne parle pas, il n'y a rien à faire.
Et c'est ce qu'il fait jusqu'à présent.
Oui, alors maintenant, il faut aussi ajouter quelque chose qui est souvent mis en avant, c'est la notion de pulsion irrésistible. Je ne suis pas responsable, parce que ça a été plus fort que moi. Ça également, c'est totalement faux, parce que si on a une pulsion irrésistible, c'est vrai que la sexualité se contrôle très mal, essentiellement parce que notre âge sexuel est inférieur à notre âge biologique. On a commencé à avoir une vie sexuelle à partir de 15, 16 ou 17 ans. Mais en même temps, les gens qui ont des pulsions très fortes se masturbent. Ils n'ont pas besoin d'aller vers quelqu'un. Oui. C'est bien le fait d'aller vers une personne qui qui me motive le sujet et pas les pulsions sexuelles. S'il y avait une castration chimique, ça ne changeait rien. J'ai vu plusieurs cas de castration chimique où les sujets n'ont pas modifié leur comportement.
Je voulais terminer.
Oui, et la difficulté pour nous, c'est que comprendre ces sujets signifie s'identifier à eux. C'est extrêmement difficile. C'est difficile de se mettre dans la peau d'un criminel sans culpabilité, sans remords. On a tendance à plaquer sur lui notre propre comportement ordinaire.
Il faudrait qu'on précise quelque chose, parce qu'on en parle depuis 15 jours maintenant de la castration chimique. Hein. Oui. La castration chimique, c'est la justice qui dit à quelqu'un, voilà, on va vous castrer chimiquement, vous allez prendre un médicament.
Oui.
Et ce médicament, tant que vous le prenez, vous êtes castré chimiquement parce que votre système fonctionne pas, ou vous n'avez plus de désir, c'est quelque chose comme ça.
Tout à fait.
À peu près dans le vrai. Donc, si je suis castré chimiquement, mais que j'arrête de prendre mes médicaments, ça va refonctionner normalement.
Tout à fait. J'ai vu un cas comme ça.
Donc, ça veut dire que ça sert pas à grand chose.
Non.
Parce que normalement, pardon, et après je vous laisse continuer, la personne en question doit se présenter chez le médecin qui lui donne son médicament, lui disant prenez-le devant moi. Ça se passe comme ça. Hein. Mm-hmm. Prenez-le devant moi. Avalez vos comprimés, voilà un verre d'eau. Donc il faut aller chez le médecin, c'est ça la castration chimique.
Oui.
C'est bien ça.
Oui, mais en même temps, c'est une erreur parce que, disons que l'acte criminel n'est pas dans la culotte, il est dans la tête. Je veux dire, par exemple, j'ai vu un patient qui m'expliquait que chaque fois qu'il se sentait déprimé, mal, sans désir, il allait se ressourcer en faisant les sorties des écoles et en séduisant des enfants.
En s'approchant.
En essayant de les séduire. Ce que je veux dire, c'est pas du tout. L'être humain, Beaumarchais a dit bien avant moi, ce qui distingue l'homme de la bête, c'est qu'il est capable, effectivement, de boire sans soif et de faire l'amour en tout temps. Ce ne sont pas nos pulsions biologiques qui nous poussent, c'est bien notre intellect qui nous pousse, effectivement, à commettre des actes.
Je dirais ce qui différencie l'homme de la bête, c'est que la bête est plus intelligente que l'homme. Est-ce que pour avouer, il faut reconnaître, ou est-ce que pour avouer, il faut accepter de reconnaître?
Alors, ce que...
C'est pas clair ma question, c'est pas...
Oui, oui.
J'accepte ce que j'ai fait, j'accepte de le reconnaître et j'avoue, ou alors simplement j'avoue pour que vous... Parce que je suis pris, je suis fait, ça y est, il y a l'Éden, il y a tout.
Je n'ai pas vu de criminels, j'ai vu des délinquants, mais pas de criminels. En général, effectivement, ils disent tout ce qu'on veut entendre, mais pour avoir la paix. Ils ne sont pas accessibles au sens de la culpabilité. S'ils l'étaient, d'ailleurs, ils seraient arrêtés dans leurs actes. Pour commettre ce type d'acte, il faut être extrêmement narcissique et considérer l'autre comme un jouet et pas comme quelqu'un qui a une existence propre. Se sentir coupable, c'est donner à l'autre un statut de sujet, ce qui n'est par définition, ils ne font pas. Donc, on ne peut pas considérer qu'il y a une sincérité des aveux. Il faut également ajouter que... Il faut ajouter également que ils se posent toujours en victime. Ils ont été eux-mêmes abusés, ils sont incompris, ils ont été poussés à faire ceci, si la société était plus compréhensible, ça ne se produirait pas. Il y a en permanence une inversion de culpabilité, et d'ailleurs, quand ils sont, disons, sous l'objet d'une menace judiciaire, ils viennent consulter. Dès que la menace s'éloigne, on ne les voit plus. Il n'y a aucune sincérité.
Donc, il n'y a pas de sincérité, vous dites, c'est plus une stratégie. Oui. Au final, quand on voit le profil de Jérôme Barella, sur qui on en apprend un peu plus chaque jour.
Oui.
Est-ce que c'est le profil typique d'un pédocriminel, d'un psychopathe, comme vous les étudiez?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui m'a frappé en voyant sa photo, c'est qu'il a l'air très sympa. Je veux dire, on dirait que c'est un homme effectivement ouvert, dynamique, et c'est bien comme cela qu'il peut être séduisant. S'il avait le visage inquiétant, s'il portait la dépression sur son visage, s'il était effectivement mauvais, comme peuvent l'être certaines personnes déprimées ou mal dans leur peau, il faudrait fuir tout le monde. C'est bien parce qu'ils sont ouverts et clivés qu'ils peuvent attirer les enfants. J'ajouterais aussi que, effectivement, Excusez-moi.
Pour l'instant, il a été placé, bien sûr, en détention provisoire. De là où il est, est-ce qu'il a conscience que son passé a été exhumé? Est-ce qu'il a accès à toutes les informations?
Il a accès à la télé, il a accès par son avocat, il a accès par les autres détenus. Mais pour compléter ce que disait le docteur Lepastier à l'instant, j'avais participé il y a c'était en 91, le 5 novembre 91, à l'audition de Christian Van Gelleven, qui avait enlevé deux petites filles de 10 ans à Elne, à côté de Perpignan. Il est déjà en garde à vue depuis une vingtaine d'heures. Il sent que l'étau se resserre. Et où, à bout d'argument, il nous dit, écoutez, moi j'aime les petits garçons, j'aime les petites filles. Vous, vous aimez les femmes adultes, il y a que des hommes autour de la pièce. Vous êtes les plus nombreux, donc vous votez les lois. Et vous pensez que c'est vous qui avez raison. Et vous pensez que c'est vous qui avez un comportement normal. Alors qu'en fait, j'ai commis quelque chose qui s'intègre parfaitement dans ma sexualité. Et c'est vous qui avez tort et c'est moi qui ai raison.
L'exemple Van Gelleven est très parlant parce que c'est un homme qui avait été suivi pour les thérapies comportementales pendant plusieurs fois. Et les médecins qui l'ont suivi, les psychologues qui l'ont suivi, sont venus témoigner à plusieurs reprises de sa guérison et sont portés garant pour lui. Ça veut dire que, bon, on peut discuter de l'indication du traitement, mais ça veut dire qu'il a été capable également d'abuser les thérapeutes qui étaient persuadés de l'avoir guéri. Et que lui aussi a mis plusieurs semaines avant de s'approcher de sa proie. Il a séduit la mère, il a mis en place des moments pour se rapprocher de la petite fille. Donc on ne peut pas du tout dire que c'est quelqu'un qui n'a pas pu se contrôler. Au contraire, c'est un excellent exemple de contrôle absolu et il a mis tout le monde dedans.
Très intelligent.
Est-ce qu'il a conscience, après ce qu'il a fait, des actes qu'il a commis? Est-ce qu'à un moment, il est dans sa cellule, à l'isolement, à la prison de Mont-de-Marsan. Est-ce que, Jérôme Barella, qui nous écoute peut-être d'ailleurs, est-ce qu'il a conscience qu'il a mis fin à la vie d'une petite fille de 11 ans, après l'avoir traitée comme il l'a traitée, on commence à avoir des informations là-dessus, qu'auparavant, il a tenté des choses, et que, est-ce qu'il a conscience qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe?
Je ne suis pas dans sa tête, mais on peut espérer que la sanction pénale, le rappel de la loi, peut être un moment de prise de conscience qui entraîne une profonde dépression. Et à ce moment-là, il y a un début d'espoir de traitement possible. Mais au départ, il n'y a aucune conscience d'avoir fait le mal. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des lois pour tout le monde, mais qu'eux sont une minorité exceptionnelle et que la loi ne doit pas s'appliquer pour eux. C'est ça qu'il faut comprendre. On peut être amené, j'imagine, à commettre un meurtre ou même un assassinat dans un moment d'exaltation, parce qu'on déteste quelqu'un, parce qu'on le hait, et puis une fois que l'acte est commis, on s'effondre et on se rend compte de ce qu'on a fait et on avoue, on va soi-même parfois à la gendarmerie, mais on n'est pas du tout dans cette logique. Vous voyez, d'après ce que nous croyons savoir, Jean Barallet a commis des actes à répétition. Si vraiment il sentait mal dans sa peau, si vraiment il souffrait de son état, il serait fait soigner. Inversement, on voit beaucoup en consultation de personnes qui se croient délinquantes, qui ont très peur, qui ne le sont pas, mais qui effectivement sont s'accablent de mots qu'elles n'ont jamais commis.
Et on cherche à comprendre évidemment le parcours de Jérôme Barella au moment de la disparition de la petite fille. Il y a quand même de grandes chances pour que l'endroit où le corps a été retrouvé n'est pas forcément l'endroit où elle a perdu la vie. Ce corps a été dissimulé.
Alors ça, on ne le sait pas. Enfin, moi, je ne le sais pas. Mais en revanche, au niveau des analyses qui vont être faites plus poussées suite à l'autopsie, là, on peut peut-être avoir des indications. Si on retrouve dans les poumons, par exemple, de la victime, des micro-poussières de grains, par exemple, ou qui proviennent de ce silo. Ça voudra dire qu'elle respirait, qu'elle les a inhalées, qu'elle était vivante à cet endroit. Voilà, il peut y avoir des indications comme ça prélevées dans le biotope local. Mmh. Hein. Donc ça, il faut voir.
Il faut combien de temps pour avoir la réponse, pour savoir s'il y en a à inhaler de la poussière.
Toutes les analyses qui sont faites actuellement peuvent prendre plusieurs semaines parce que les viscères qui ont été prélevés, les tissus qui ont été prélevés sur différentes viscères, justement, à différents endroits du corps, sont mis en culture, peuvent être plongés dans du formol, puisqu'après, il va falloir découper ces tissus-là en fines lamelles pour pouvoir les examiner au microscope. Et avec des anatomopathologistes qui sont quand même une spécialité assez rare dans la médecine légale, hein. Et voilà quoi, ça prend du temps.
Avec la complexité qu'il s'agit d'une enfant, le docteur Philippe Boxeau, qu'on a reçu dans l'affaire suivante plusieurs fois, nous disait parfois on plaisante, dans les salles d'autopsie, quand on autopsie une personne d'un certain âge, il y a un peu de, voilà, parce qu'il faut aussi supporter tout ça.
Parce que c'est insupportable.
Mais il dit, les enfants, on se met en retrait. Il y a un silence dans les salles. Vous avez fait des autopsies?
Oui, bien sûr, on a pu
assister à des autopsies.
Oui, bien sûr. Des enfants, des nouveau-nés, des enfants abandonnés, nés, morts-nés, et les parents sont partis dans un avion, à Roissy, dans les toilettes de Roissy, ou alors des enfants, une petite d'ailleurs, qui avait été tuée, c'était une de mes premières d'ailleurs à l'époque, qui avait été tuée dans l'explosion d'une chaudière d'un centre urbain à Nanterre, à Levallois, dans les années 90. Hein. Et d'ailleurs, le médecin légiste avait eu du mal à déceler les causes de la mort. Et c'est là où elle nous avait dit qu'elle a pu aussi peut-être mourir de peur, comme elle nous avait expliqué qu'un homme qui traversait, un homme âgé qui traversait un passage clouté, naturellement, normalement pour lui, une voiture arrive à vive allure, et elle freine, elle pile devant lui, elle ne le touche pas, mais elle s'arrête à 10 cm de lui. Et lui, il tombe comme ça, syncope, mort, crise cardiaque, quoi, mort de peur.
Il y a 25% à peu près d'autopsies qui sont des autopsies blanches. On ne retrouve pas la cause de la
mort. Combien de...
20, je ne suis pas tout à fait sûr du chiffre, un quart à peu près.
D'accord.
Toutes les personnes qui sont retrouvées mortes sur la voie publique sont autopsiées systématiquement.
C'est une mort violente.
Il y a beaucoup de morts effectivement naturelles pour lesquelles il n'y a pas de pour lesquelles il n'y a pas de résultat.
Docteur, dans 30 ans, on sera en 2056. Si Jérôme Barrel est condamné, si c'est lui, s'il est condamné, s'il est condamné à une peine qui correspond à, ça sera 30 ans, ça sera la réclusion criminelle à perpétuité, ça sera peut-être la perpétuité réelle. Est-ce que dans 30 ans, en 2056, nous, on ne sera plus là. Est-ce qu'on peut le laisser sortir? Est-ce qu'on peut envisager de le laisser sortir?
Écoutez, vous me posez une question qui ne me concerne pas. On ne peut pas.
Si vous êtes psychiatre, on vous posera aussi la question sur sa dangerosité.
Oui,
à vous ou à un psychiatre,
J'ai envie de dire que la justice se défausse un peu de sa responsabilité. Je pense que, en principe, nous sommes tous pris par des mécanismes de répétition. Ce qu'on a fait une fois, on le répète, qu'on soit criminel ou qu'on aime les blondes ou les rousses ou les femmes aux yeux verts. Donc nous passons notre vie à répéter. Il n'y a pas de raison pour que les criminels soient différents. Donc on peut aussi imaginer que quelqu'un s'amende en prison, c'est possible, mais l'amendement ne signifie pas qu'il y ait zéro danger. Par exemple, si on prend un exemple, je m'excuse pour les alcooliques, les gens qui font des cures de désintoxication, on sait bien qu'il y a des hauts et des bas, des rechutes et une guérison quand elle arrive. On ne peut pas garantir, pour quelqu'un qui a été criminel, que ça ne recommencera jamais. On peut envisager, si on a des doutes, éventuellement un séjour hospitalier ou dans un service où il soit très encadré. Ça, c'est possible. Il peut y avoir aussi, j'ai vu un cas à propos de stress, quand j'étais jeune, je travaillais dans un arrêt d'urgence, j'étais appelé dans quelqu'un qui était condamné pour une très lourde peine, qui faisait une sortie d'essai dans sa famille. Et il a très mal supporté la liberté, il avait fait des dizaines d'années qu'il n'était pas sorti, il a eu une crise cardiaque très grave, il a été hospitalisé, et je crois qu'il est mort. On peut aussi imaginer cette éventualité.
Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête d'un homme qui vient de passer à l'acte, qui vient de commettre un crime, dans l'immédiat?
Alors, un même acte, par principe, renvoie à des organisations psychiques différentes. Un mari jaloux peut tuer sa femme, après il peut le regretter, il peut avoir des remords, il peut s'effondrer. Quelqu'un qui est pervers, un pédocriminel, peut au contraire avoir un sentiment de soulagement, de se dire qu'il est plus fort que les autres, qu'il n'a pas été arrêté par des considérations mesquines, que c'est un surhomme, il peut être tenté de recommencer.
Pas peur, sur le coup, d'avoir été vu, que le corps soit rapidement découvert, que trop d'indices... soit là pour...
S'il était capable de penser tout ça, il ne commettrait pas son geste. C'est bien parce qu'il est persuadé d'être le plus grand, le plus fort, le plus beau, qu'il peut imaginer qu'il va être plus malin que tous les enquêteurs et qu'il n'y a aucune raison pour qu'on le trouve. Ce sont des actes très minutieusement préparés. Donc, il n'y a pas effectivement de remords. Éventuellement, on peut dire que nous ne sommes jamais faits d'une pièce. Il peut y avoir un aspect criminel et un aspect plus ordinaire dans sa personnalité. Et peut-être que l'aspect ordinaire peut l'arrêter, mais j'y crois pas beaucoup.
La peur ne fait pas partie du vocabulaire des criminels?
Oh, certainement pas, non. À la lumière de ce que dit le docteur Lepastier, si les gens avaient peur, il n'y aurait plus de crime, il n'y aurait plus de délit. Mais il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce dossier. Vous savez que les criminels en série, les tueurs, les violeurs, prennent de moins en moins de précautions au fur et à mesure qu'ils réussissent leurs actes. La première fois, ils vont tuer à 300 km de chez eux, ils vont prendre une voiture louée sous un faux nom, etc., etc. Puis, voyant que ça fonctionne bien et qu'ils ne sont pas inquiétés, c'est très fatigant de prendre énormément de précautions. Donc, on en prend finalement de moins en moins. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que il agit effectivement comme quelqu'un qui ne réfléchit pas aux conséquences. Il enlève la petite fille qu'il connaît. Tout le monde sait qu'il vient tous les jours lui apporter des croissants, des friandises.
Qui va être le premier suspect.
Voilà, il l'enlève avec sa voiture. Il sait, c'est une ville de 6000 habitants, Florence. Il y a des caméras partout. Sur la scène de découverte, on trouve son ADN. Alors, on ne sait pas quelle est la nature de l'ADN. La petite fille est découverte dans un endroit qu'il connaît. C'est-à-dire qu'il prend, s'il voulait se faire arrêter, il ferait la même chose. La deuxième chose qui est intéressante, c'est la vitesse de la réponse pénale. C'est-à-dire que, indépendant des dysfonctionnements qui ont peut-être existé, à partir du moment où il y a 5, 6, 10 faits, et certainement davantage, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, eh bien, la toute-puissance du criminel potentiel devient telle que la réponse pénale, si elle n'intervient pas, participe en quelque sorte à cette réitération.
Ça commence quand? Quand on devient un pédocriminel, ça commence quand?
Alors,
dans la vie de quelqu'un.
Les pédocriminels diront qu'ils ont été eux-mêmes abusés dans leur enfance et qu'ils sont des victimes et qu'ils ce sont eux qui sont à plaindre. Mais en réalité, statistiquement, ce n'est pas vrai. Il n'est pas vrai que les gens qui ont été abusés deviennent ensuite eux-mêmes abuseurs. C'est une façon de se défendre cyniquement. Ce qu'on a pu constater dans leur enfance, c'est qu'il y a des moments de très grande carence, suivis de moments de très grande excitation, et que ce sont effectivement des personnes qui ont besoin d'excitation pour sortir du marasme. C'est pour ça que la castration chimique est un non-sens. Ce sont des personnes, s'il y a quelque chose à dire, ce sont des gens extrêmement déprimés, qui ont besoin de se shooter par quelque chose d'extrêmement excitant.
Est-ce que la science est capable de dire si on est NAIT pédocriminel ou est-ce qu'on le devient?
On le devient. Il y a deux conditions pour être pédocriminel, comme pour être criminel. Il faut qu'il y ait de très fortes pulsions agressives, et ça, effectivement, ça relève en partie d'un déterminisme biologique, et il faut également qu'on ait des traits, qu'on soit extrêmement narcissique. Parce que si on n'était pas narcissique, on serait arrêté dans son geste, on serait effectivement amené à se retenir. Et c'est, le narcissisme, lui, est lié à des problèmes éducatifs.
Allez, merci à tous les trois. Merci Dominique.